Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir tout le monde. Ravi de vous ouvrir les portes de RTL Soir. Deux heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre. Avec ce soir, s'il vous plaît, un cocorico et même mieux, une Marseillaise. Car oui, on attendait Alexis Pinturo, c'est finalement Mathieu Fèvre qui a été sacré cet après-midi champion du monde de géant en ski alpin, médaille d'or, le premier français depuis un certain Jean-Claude Killy en 1968, 53 ans qu'on attendait cela. Mathieu Fèvre, né à Nice, 29 ans, licencié à Isola 2000, vit une semaine de rêve avec pas un, mais deux titres mondiaux, un exploit majuscule à la une de RTL Soir. Récit complet dans un instant et parole de champion à 18h15, Mathieu Fèvre sera en ligne avec nous pour savourer un peu, beaucoup, énormément. Voilà une actualité qui va nous faire du bien dans cet océan de morosité. Alors on va en profiter, soyez tous les bienvenus. RTL Soir, top départ, les grands titres, le journal. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, le responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés tué à coups de couteau par un demandeur d'asile. Ça s'est passé à Pau, le ministre de l'Intérieur est sur place. Dans ce journal également, le Covid, l'inquiétude à Nice, la ville a ce soir le plus haut taux d'incidence de France. On ira aussi à Londres. Ça y est, c'est officiel. Harry et Meghan perdent tous leurs titres royaux. Et puis hommage bien sûr à Philippe Châtel, le papa d'Émilie Joly, mort aujourd'hui à l'âge de 72 ans.
Tu rêves de voler.
Un rendez-vous incontournable dans RTL Soir, c'est Éric Brunet tout à l'heure pour ses temps forts de la semaine, sa liberté de parole. Éric à 18h50. En attendant, le ciel, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
La météo demain, grande douceur.
Oui, en plus il fera beau, vraiment tout y est. On va juste avoir un petit peu d'instabilité dans le golfe du Lion qui va se traduire par quelques averses, pas mal de vent en revanche. Et puis le vent d'autant d'ailleurs va souffler fort aussi sur les Pyrénées. Et puis on aura un petit peu d'averses également sur la pointe bretonne, c'est tout, partout ailleurs. Du soleil, un vent de secteur sud qui va nous rapporter la douceur, fourchette de 13 à 22 degrés dans la après-midi avec 14 à Quimper, 16 degrés à Bourg-en-Bresse, 17 à Marseille, 18 degrés à Paris comme à Angoulême, 20 degrés à Bordeaux et 22 degrés à Pau.
Un petit air de printemps, merci Valérie.
RTL Soir.
Et c'est donc l'homme du jour, Mathieu Fèvre. Deux médailles d'or en trois jours après son titre en parallèle mardi. Le skieur est ce soir champion du monde de slalom géant. C'était pourtant un autre Français qui était favori de l'épreuve, Alexis Pinturo. Il a d'ailleurs été longtemps en tête, hein, Jean-Michel Rascol, avant sa sortie de piste en deuxième manche.
Oui, quand Alexis Pinturo s'est fait piéger sur la glace à l'endroit le plus raide d'une piste qu'il avait pourtant parfaitement domptée lors de la première manche, Mathieu Fèvre a eu du mal à réaliser un deuxième titre, mais surtout celui du géant qui couronne les plus grands, 53 ans après Jean-Claude Killy.
Quand je comprends que je gagne la course et que je suis champion du monde, il y a énormément de choses qui passent par là et j'ai plus que été à la limite. Il y a même des fois où je me voyais clairement dehors. Puis effectivement, quand j'ai vu que c'était du vert, que j'étais arrivé premier, j'ai quand même eu du mal à y croire.
Car son histoire est celle d'un skieur mal récompensé jusque-là, celle d'abord d'un adolescent niçois qui quitte Isola 2000 pour une famille d'accueil en Savoie et qui va se heurter au talent d'un autre prodige, Alexis Pinturo justement. Mathieu rafle quelques miettes, un titre junior, un succès à Val d'Isère en 2016, mais il suscite l'incompréhension au JO de Pyeongchang, amené à commenter les performances collectives de l'équipe de France. Il a une phrase malheureuse, c'est le dernier de mes soucis, je suis là pour ma pomme. Il sera renvoyé pour raison disciplinaire. En couple à l'époque avec Michaela Schifrin, l'épisode avait fait grand bruit. À Cortina, Mathieu et l'Américaine sont les athlètes les plus médaillés de ces championnats.
Jean-Michel Rascol, spécialiste ski du service des sports de RTL et donc parole de champion. Tout à l'heure, on sera en ligne avec notre champion du monde de ski alpin et de géant en particulier, Mathieu Fèvre.
Direction Pau à présent, après ce drame dans un centre d'accueil de réfugiés, le responsable, un père de famille de 46 ans, a été tué à coup de couteau par un demandeur d'asile. Denis Grangeau, bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. Que s'est-il passé ?
Oui, l'homme de 39 ans s'est présenté ce matin dans les locaux du centre d'accueil vers 11h. Il avait demandé visiblement un rendez-vous avec le directeur. Ce dernier l'a donc reçu dans son bureau et là, quelques secondes après, les salariés du centre ont entendu des cris. Ils ont tout de suite appelé la police et découvert le drame. Le directeur gisait au sol. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait été touché par 7 coups de couteau, dont un au cou. Malgré les soins prodigués sur place très rapidement par les services de secours, l'homme de 46 ans n'a pas survécu à ses blessures. Son agression agresseur a été interpellé sur place et placé tout de suite en garde à vue au commissariat de Pau. D'origine soudanaise, il avait été condamné pour des faits de violence dans la région de Pau en 2017 par deux fois. Certains témoins évoquent des troubles psychiatriques chez cet homme dont la dernière demande d'asile venait d'être refusée. Gérald Darmanin et François Bayrou sont en ce moment même dans les locaux du centre d'accueil pour soutenir les salariés très choqués.
Denis Grangeau à Pau pour RTL et à l'instant, le ministre de l'Intérieur a pris la parole. Il confirme que cet homme, effectivement, aurait bien dû être expulsé. Mais l'heure, dit le ministre, n'est pas à la polémique. Écoutez.
Il a été convoqué deux fois par les services du ministère de l'Intérieur pour pouvoir lui dire qu'il devait quitter le territoire national. Et il ne s'est pas rendu à ces convocations. Il est normal que la République applique des règles. Quand on n'a plus vocation à rester sur le territoire national, on doit repartir. Mais il est aussi tout à fait normal que la République soit fidèle à la vocation de la France d'accueillir des réfugiés et de faire ce qui nous distingue d'autres pays, de le faire dans le calme, en donnant évidemment, grâce à des associations comme celle-ci, les moyens aux réfugiés, aux demandeurs d'asile. Donc je ne voudrais surtout pas qu'en ce jour de deuil, nous mélangeons tout.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement donc ce soir à Pau.
Sur le front du Covid, Amandine, Emmanuel Macron se donne lui 8 à 10 jours pour relâcher ou non les contraintes.
Confidence faite à une vingtaine de parlementaires de la majorité avec qui il s'est entretenu par visioconférence. Tout va dépendre bien sûr de l'évolution des variants qui inquiètent particulièrement à Nice. La ville a ce soir le taux d'incidence le plus haut de France, 751 cas pour 100 000 habitants. Étienne Baudu, vous vous êtes rendu dans le quartier de l'Ariane, c'est l'un des plus touchés.
Oui, dans cette école maternelle devant laquelle je me trouve au cœur du quartier, c'est un cas de variant sud-africain qui a été détecté. Le petit n'avait pas été testé, mais sa maman était positive. Sophie, la maîtresse, aurait souhaité appliquer le protocole en cas de variant, que sa classe soit fermée. Elle a rouvert pourtant ce matin pour une journée.
Alors heureusement que j'ai eu des super parents très très coopératifs et très compréhensifs qui n'ont pas mis leurs enfants parce qu'ils sont conscients quand même de la situation. Et je suis très contente d'être en vacances ce soir. Oui, ça va faire baisser la pression. Oui, là on était tous sous tension là, vraiment. Pas forcément une inquiétude pour contracter le virus, mais vraiment c'était pesant comme situation. Donc je pense que tout le monde est content d'être en vacances ce soir.
Alors cette situation pesante, hein, Mélanie et Sarah la ressentent aussi, mais étonnamment, elles ne portent pas le masque avec, on va dire, des arguments un peu convaincants.
Ben si, mais on l'a oublié.
Si, mais on l'a oublié, mais après on a juste le bloc à côté, on a juste à monter les escaliers. Bon après, on sait que c'est dangereux, le Covid, il circule dans, un peu de partout dans l'air. Mais bon, c'est vrai que c'est dangereux après.
Alors attention, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai aussi qu'ici, les conditions de vie ne sont pas forcément idéales. Et alors, ne parlez pas de reconfinement à Mélanie.
Moi, j'en ai marre. Hein. Ça fait un an, j'ai l'impression que j'aurais jamais la même vie qu'avant. Rester confiné chez nous, c'est pas aussi une solution. Hein. On l'a déjà fait en mois de mars, mais franchement, c'était invivable.
Le reportage RTL de Étienne Baudu dans le quartier de l'Ariane à Nice.
Ah, cette crise continue de plomber les comptes des entreprises. Après l'aérien hier, c'était au tour de Renault de présenter ses résultats aujourd'hui. Des pertes records, 8 milliards d'euros pour 2020 et des ventes en chute libre, moins 21,3%. Malgré tout, Bruno Le Maire l'a répété aujourd'hui, pas question de lâcher Renault. L'État, on le rappelle, est actionnaire à 15%.
Nous avons apporté un soutien massif à Renault. 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État pour aider Renault à passer ce moment difficile. Ensuite, Renault a annoncé un plan de transformation. C'est un plan qui est convaincant. Je suis tout à fait persuadé qu'il donnera des résultats sur le long terme pour Renault. On voit déjà qu'au deuxième semestre, les résultats sont meilleurs qu'au premier. Donc il y a déjà une amélioration. Mais il faut continuer à accompagner l'industrie automobile.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie au micro RTL, d'Éric Vanier, de cette crise sanitaire. Il en a bien sûr été question tout à l'heure au sommet du G7 qui s'est tenu aujourd'hui, à distance bien sûr. C'était le premier sommet pour Joe Biden, le président américain, dans la foulée, une conférence sur la sécurité au cours de laquelle il n'a pas caché son inquiétude quant aux relations entre l'Occident et la Russie. Joe Biden qui met en garde contre la fragilisation de la démocratie.
Nous sommes au cœur d'un débat fondamental sur la trajectoire future de notre monde. Nous sommes à un point d'inflexion entre ceux qui affirment que, compte tenu de tous les défis auxquels nous faisons face, depuis la quatrième révolution industrielle jusqu'à une pandémie mondiale, L'autoritarisme est la meilleure façon d'avancer. Et ceux qui comprennent que la démocratie est essentielle.
Joe Biden qui met par ailleurs en garde contre un retour, je le cite, au bloc figé de la guerre froide.
18h10 dans RTL Soir, dans un instant la suite du journal avec Amandine Bégaud et Harry et Meghan et la famille royale, c'est officiellement terminé. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
La suite du journal avec Amandine Bégaud et donc le divorce est définitivement acté entre Harry, Meghan et la couronne britannique.
Le palais de Buckingham l'a annoncé tout à l'heure, le couple perd tous ses titres. Alors ce n'est pas totalement une surprise, hein. La reine leur avait donné un an pour réfléchir à leur avenir. Ce qui interpelle en revanche Marie Billon, c'est le timing, si j'ose dire, de cette annonce.
Ben oui, ils avaient jusqu'à la fin mars pour prendre la grande décision. Mais le palais a fait un communiqué aujourd'hui. C'est vrai qu'alors que le prince Philippe est à l'hôpital depuis 4 jours, qu'il devrait encore y passer le week-end, ça fait bizarre de parler des frasques du petit dernier. Mais ça n'est pas un hasard, selon Angela Levine, la biographe du prince Harry, elle a parlé à la BBC.
Je pense que la reine en a franchement ras-le-bol. Elle est très tolérante, elle aime sa famille, mais il ne faut pas passer la ligne rouge. Et eux l'ont passé. C'est comme quand Charles et Diana ont commencé à parler de leur mariage à la télévision. C'est la reine qui leur a dit qu'ils devaient divorcé, qu'il n'avait pas le choix.
Et c'est encore une histoire de déballage télévisuel pour Harry et Meghan. La goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase royal, c'est l'interview que le couple a décidé d'accorder à la célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey, qui doit être diffusée le 5 mars prochain. Elle n'a pas été approuvée par le palais. Ils feront donc cette interview en étant définitivement plus des représentants de la monarchie britannique. Si le couple étrille les Windsor, Buckingham Palace pourra ignorer ou répondre selon où se trouvera l'intérêt de la famille royale.
Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres. Voilà à présent une musique qui a bercé toute une génération.
Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie.
Vous la reconnaissez cette petite voix? Vanessa Paradis à l'école des fans, interprétant donc Émilie Jolie. C'était en 1981. On a appris aujourd'hui le décès de Philippe Châtel, le créateur d'Émilie Jolie, auteur, compositeur et interprète. Il laisse toute une série de tubes, des tubes qu'on a tous déjà fredonnés, Laurent Marsic.
Et c'est avec les conseils d'Henri Salvador, dont il fut le coursier personnel et qui lui apprendra à jouer de la guitare, et Georges Brassens, dont il fit les premières parties de ses concerts en 1972, que Philippe Châtel se lance dans la chanson. Premier tube, écrit en pleine convalescence après un grave accident de la route, sur son lit, une jambe dans le plâtre, il enregistre ceci en 1977.
Je t'aime bien Lily, pour toutes les bêtises que tu dis.
Je t'aime bien Lily, premier succès, consécration 2 ans plus tard avec un nouvel album, Sentiments et de nouveaux tubes.
Tu ne savais pas pauvre de toi qu'il y a du Mr. Hyde en moi.
Parallèlement, Philippe Châtel, papa d'une petite Émilie alors âgée de 4 ans, rassemble, retravaille et structure les chansons de Lapin et de Hérisson qu'il improvisait pour l'endormir. Le tout devient le conte musical Émilie Jolie, sorti fin 1979, une référence encore aujourd'hui et à l'époque une affiche de rêve pour interpréter les chansons.
Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson ? Oh, quelle est triste sa chanson !
Ici, ses parents, Salvador et Brassens, étaient présents aussi Souchon, Woolsey, Mitchell, Charlebois, Hardy ou encore Louis Chédid, Sylvie Vartan et Julien Clerc.
Tu t'appelles Émilie Jolie.
Philippe Châtel me le confiait en juillet 2017, cette aventure aura été la fierté de sa vie.
C'est devenu une sorte de classique, quoi. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. J'espérais simplement vendre quelques disques pour ne pas embêter les artistes qui étaient venus dans mon bateau. Et puis ça a dépassé évidemment mes espérances.
Au revoir Émilie, et tourne bien toutes les pages.
Oui monsieur l'oiseau, au revoir.
Et le succès de ce conte musical est tel à l'époque que le prénom Émilie a été donné à 12 000 petites filles en 1992, 12 000 contre 5 000 l'année précédente. Du foot ? Ce soir, avec le début de la 26e journée de Ligue 1, Brest reçoit Lyon. Coup d'envoi, ce sera à 21h à suivre, hein, bien sûr, sur RTL. RTL Foot, c'est dès 20h. Et puis, on apprend un instant qu'un troisième cas positif a été détecté au sein du 15 de France. Premier joueur touché, le demi de mêlée Antoine Dupont. Alors, le 15 de France ne joue pas ce week-end. Hein. France-Écosse, c'est le 28 février, dans 9 jours.
La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir.
La bonne nouvelle du jour.
Et Stéphane, on sera peut-être millionnaire ce soir. 202 millions d'euros à gagner à l'euro-million. C'est historique. Hein. Le plus gros gain pour l'instant, c'est 200 millions. Bon, nos probabilités ne sont pas énormes. Une chance sur 139 millions. En même temps, il faut bien jouer pour gagner.
Il faut pas le dire, ça. Ouais. Ça plombe.
Ben si, mais quand même, on ne sait jamais. Imaginez, si vous êtes celui-là, 1 sur 139 millions. Vous avez 20, jusqu'à 20h15 pour jouer.
Et vous allez le faire, j'en doute pas une seconde.
Oui, j'y vais tout de suite.
Vous revenez quand même à 18h30 pour toute l'actualité. Amandine Bégaud, bien sûr. Dans un instant, coup de fil à un champion du monde. Champion du monde de ski alpin depuis cet après-midi. Champion du monde de géant, ça n'est pas rien. Ça fait 53 ans qu'on attendait ça.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Merci à vous tous d'être là. On ne va pas bouder notre plaisir d'écouter un champion du monde ce soir. C'est le rayon de soleil du jour dans un ciel chargé d'actualités moroses. Le skieur Mathieu Fèvre est donc en ligne avec nous depuis l'Italie. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Et bravo à vous, champion du monde de géant. Deuxième médaille d'or en quelques jours après le parallèle. Vous réalisez, Mathieu Fèvre, là, ce que je suis en train de vous dire ?
Oh. Petit à petit, ça commence à rentrer. Très honnêtement, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, que, enfin, avec tout le déroulé de la course, etc., il y a un moment où j'y ai vraiment pas cru. De ne pas y croire, ça a vraiment pris tout son sens pour moi aujourd'hui. Et là, voilà, avec le recul, avec la pression qui redescend un petit peu, avec en ayant eu l'occasion de me mettre un petit peu au calme quelques minutes, je me suis dit, c'est fait, elles sont là, et puis. C'est un sacré moment. Honnêtement, c'est un sacré moment.
Ouais, sur une échelle de 1 à 10, Mathieu, en termes d'émotion, ça représente quoi ?
On va être à 12-13, je dirais.
Cette émotion, vous l'avez mesurée. On vous a vu en termes d'image après l'arrivée dans le cercle justement d'arrivée. On vous a vu la tête dans les mains. Qu'est-ce qui a défilé justement dans cette tête à ce moment-là ?
Bah, y a énormément de choses, notamment les. Alors, c'est peut-être bête, mais il y a aussi énormément les moments compliqués qui sont revenus en mémoire parce que voilà, ça fait quelques saisons maintenant où c'est pas forcément le niveau de ski que j'attends, où il y a pas mal de frustrations, où il y a des choses qui sont un petit peu délicates à gérer. Donc, quand je comprends que je gagne la course et que je suis champion du monde, il y a énormément de choses qui passent par là et juste il y a un moment en fait où je me suis pris la tête dans les mains pour essayer de comprendre ce qui se passait et de me dire tous ces moments compliqués, tout le travail qui a été mis en place, que ce soit de mon côté ou avec les gens qui nous entourent, avec le staff, les entraîneurs, mon technicien, les gens qui sont là pour la performance, je dirais, ça a été un petit peu penser à tout ça et essayer de remettre un peu d'ordre, je dirais, dans ma tête.
Justement, puisque vous êtes le premier concerné, comment vous l'expliquez, vous, votre forme du moment, vos victoires, là ? C'est une vraie revanche sur ces années galères ?
Je dirais pas que c'est une revanche parce que je suis pas forcément quelqu'un de revanchard. En tout cas, j'essaie de pas fonctionner à l'orgueil. J'essaie de fonctionner en essayant de comprendre les choses, en essayant de mettre en place des situations et d'avancer comme ça. Donc, c'est pas forcément une revanche. Par contre, c'est une certitude que ça donne du sens, je dirais, à toutes les fois où il a fallu à chaque fois se remobiliser, où il a fallu retourner au travail, même si les choses ne se passaient pas correctement. Il fallait tout le temps revenir la tête froide pour essayer de construire à nouveau. Et puis, en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, où après les dernières courses de Coupe du Monde, on savait qu'on avait une longue période sans compétition. Et avec les entraîneurs, avec le staff, on a quasiment tout remis à plat pour essayer de comprendre où c'est que ça fonctionnait pas. Et à partir de ces conclusions-là, en fait, on a mis une stratégie en place pour essayer de finir au mieux cette saison. Et ça fait aussi quelques temps que je me sens très bien sur mes skis. Donc voilà, c'est peut-être compliqué à comprendre parce que la dernière fois que j'ai fait une Coupe du Monde, je finis 15e, il me semble, assez loin de la victoire. Mais en tout cas, je pense que dernièrement, pour moi, c'est peut-être moins une surprise parce que le ski commençait à vraiment bien revenir et j'arrivais à enchaîner les journées sur la neige avec beaucoup de précision et avec beaucoup de confort sur mes skis. Donc forcément que voilà, aujourd'hui ça a été la consécration par rapport à ça.
Oui, vous avez été énorme cet après-midi sur la neige italienne. Vous avez signé une super deuxième manche. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez vécu, cette deuxième manche ? Parce que vous avez été quand même 2-3 reprises à la limite, non ?
Ouais, j'ai plus que été à la limite. Il y a même des fois où je me voyais clairement dehors. En termes de sensations, ça a été plutôt compliqué quand j'étais dans ma manche. En tout cas, sur la première moitié de la manche, je me disais tu produis pas forcément du très bon ski, t'es un peu heurté. Et voilà, donc j'avais un petit peu des sensations qui étaient pas forcément évidentes. Après, je fais une grosse faute. En tout cas, ça Je suis à deux doigts de sortir parce que je me marche en fait sur le ski au milieu de la manche. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, voilà, il te reste une moitié de manche. Il faut juste que tu mettes absolument tout ce que tu as dans la bataille et aller jusqu'à la ligne d'arrivée aussi vite que possible. Et puis, tu verras bien à l'arrivée ce que ça donnera. Et puis, effectivement, quand j'ai vu que c'était du vert, que j'étais arrivé premier, ouais, j'ai quand même eu du mal à y croire.
Mathieu Fèvre, vous entrez un peu plus dans la légende du ski alpin français. Là, vous arrivez à mesurer l'immensité de cet exploit. Il n'y avait pas eu de Français champion du monde de géant depuis Jean-Claude Killy, il y a 53 ans.
Ouais, ça remonte un petit moment. Ouais. J'ai pas forcément de... Enfin, je sais pas vraiment si... Si je me rends compte de ça, parce que voilà, c'est ma carrière, je suis acteur de ça, donc je pense que les choses ne sont pas perçues de la même manière à l'intérieur et à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ouais, je me rends compte quand même que ce qui vient d'être fait, c'est quand même quelque chose qui a rarement été fait pour un Français en tout cas. Et voilà, la dernière fois qui a été fait, c'était il y a 53 ans. Donc,
parce que dans les livres de sport et du ski français, Mathieu, en face de géant, il y aura Killy et Fèvre.
Ouais, ça sonne bien. Moi, j'aime bien. Quand on connaît le palmarès de Jean-Claude Killy, quand on sait la renommée qu'il a, après voilà, moi j'ai pas son nombre de victoires en Coupe du Monde, j'ai pas son voilà, c'est quand même deux choses qui sont complètement différentes, c'est pas la même époque non plus, mais effectivement maintenant il y aura Jean-Claude Killy et juste derrière il y aura Mathieu Fèvre, donc c'est quand même ouais, c'est beau.
C'est pas rien.
C'est touchant, ça me va bien, j'aime bien.
Mathieu, après la première manche, à la mi-journée tout à l'heure, on attendait Alexis Pinturault, il a raté le deuxième acte. Vous avez une pensée pour lui? Vous avez échangé quelques mots? Comment ça se passe entre champions comme ça?
Non, j'ai pas du tout échangé avec lui. Je pense que moi, je comprends parfaitement la déception, je comprends parfaitement la frustration. Et à partir de là, effectivement, on n'a pas eu le temps de discuter plus que ça. Alexis, il est arrivé ici en grand favori, c'est une situation qui est loin d'être évidente dans notre discipline, qui est extrêmement aléatoire, où la faute est très vite arrivée, où on peut sortir, où on peut avoir des conditions qui nous sont pas favorables. Donc voilà, Alexis, c'est un immense champion. Il est en train d'écrire l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du ski et encore plus de l'histoire du ski français, pardon. Et je pense qu'il va falloir un peu de temps peut-être pour digérer cette frustration et cette course. Mais il a encore une course dimanche où il va pouvoir briller. Et puis j'espère que ça pourra lui sourire.
Le ski alpin chez vous, Mathieu Fèvre, c'est une histoire depuis toujours. Vous êtes tombé dedans tout petit. Je crois que le papa était moniteur. Vous retournez en arrière là, en ce moment?
Non, pas forcément. C'est une certitude que... Voilà, moi j'ai toujours baigné dans le ski, ayant habité en station depuis mon plus jeune âge. Oui, ça a toujours fait partie de mon quotidien. J'ai toujours été passionné de ça. Ça a toujours, je dirais, ça a été le fil conducteur et c'est le fil conducteur de ma vie depuis le début. Donc, ça prend tout son sens aujourd'hui. Maintenant, je pense pas forcément, voilà, ces premières années. Les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. Et puis, je pense que le plus important, c'est de profiter du moment présent, sans bien, évidemment qu'il faut pas oublier tout ce qui s'est passé par le passé, parce que voilà, c'est aussi grâce à toutes ces choses-là que j'en suis là aujourd'hui.
Ces médailles-là, celles du ski alpin, les vôtres, celles du monde du biathlon, sont en fait des éclaircies quand même pour le monde de la montagne, qui est en plein Covid, un univers à l'arrêt.
Ouais.
Est-ce que vous y pensez à ces professionnels qui sont privés de remontée mécanique, de cette saison blanche qui est vraiment particulière?
Bien entendu qu'on y pense. Déjà, j'en suis. On est les premiers concernés par rapport à ça, parce que voilà, si le monde de la montagne, si l'industrie du ski ne fonctionne pas, c'est directement nos revenus et nos moyens pour s'entraîner qui sont impactés. En plus de ça, moi, mon père est hôtelier à Isola 2000. J'ai mon meilleur copain qui a des magasins en station. Donc voilà, je suis directement impliqué dans cette situation-là, et il y a une situation sanitaire, pardon, en ce moment qui est plus que délicate, et aujourd'hui c'est regrettable que tout soit arrêté de la sorte et qu'on mette autant de monde dans des difficultés qui voilà, j'espère en tout cas qui ne seront pas rédhibitoires pour la suite.
En tous les cas, c'est sans doute savoureux pour vous que ces médailles, elles remontent un petit peu le moral, non?
Ouais, je pense. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon père dernièrement en me disant que ça lui avait remis du baume au cœur. Mais Voilà, après, ça n'efface pas tout non plus. C'est une certitude que voilà, il y a la fierté de ses médailles pour lui et en tout cas pour les gens qui m'entourent. Mais je pense qu'il faut pas non plus oublier les problèmes quotidiens et de l'impact que ça peut avoir dans leur vie. De tous les jours.
Mathieu, je m'inquiète un petit peu avec ce contexte. Est-ce que vous avez le droit de fêter ce titre historique ce soir ? Il y aura un petit verre, il y aura quelque chose ou pas ?
Alors, il va y avoir un petit verre, sachant qu'on est dans des bulles. Voilà, les choses elles sont assez bien faites. On est testé plus que régulièrement. On est à l'hôtel où on est la seule nation. On a un hôtel par nation. Donc ouais, effectivement, je pense qu'il va quand même y avoir une petite bière ce soir avec tous les gens qui nous entourent pour les remercier aussi de tout le travail qui est fourni à longueur de temps et à longueur d'année pour nous permettre de vivre des moments comme ça.
Champion du monde de géant, Mathieu Fèvre était l'invité de RTL Soir. Bravo, profitez bien. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
18h28, la suite de RTL Soir, vous restez bien là. C'est toute l'actualité avec Amandine Bégaud et le programme météo du week-end avec Valérie Quintin. A tout de suite.
RTL Soir.
18h30. Et toute l'actualité, c'est avec Amandine Bégaud.
Et à la une ce soir, un skieur français, champion du monde du géant. Ça n'était pas arrivé depuis Jean-Claude Killy, il y a 53 ans. Mathieu Fèvre a décroché tout à l'heure la médaille d'or, la deuxième en trois jours après son titre mardi en parallèle. Dans l'actualité également, ce drame à Pau, le responsable d'un centre de réfugiés, tué à coups de couteau par un demandeur d'asile. Un Soudanais de 38 ans, il a été interpellé. Un troisième cas de Covid au sein du 15 de France. Le premier joueur, le demi-mêlé Antoine Dupont, il a été testé positif aujourd'hui. Et puis il y a du foot ce soir, début de la 26e journée de Ligue 1. Brest reçoit Lyon, coup d'envoi à 21h. Ce sera à suivre sur RTL. RTL Foot dès 20h. Enfin, on a appris aujourd'hui le décès de Philippe Châtel, le créateur d'Émilie Joly, chanteur, auteur et compositeur. Il avait 72 ans.
Merci beaucoup Amandine. Bon week-end à vous. Bien sûr, toute l'actualité, c'est directement sur l'appli RTL. Météoscope, Valérie Quintin. Le temps des prochains jours, s'il vous plaît. D'abord, un beau week-end dans le ciel.
Alors c'est vrai qu'il va faire beau, il va faire doux sur tout le pays pratiquement. Demain, on va avoir un petit peu d'instabilité, pas grand-chose sur la pointe bretonne, ainsi qu'en Languedoc et dans une moindre mesure en Provence et en Roussillon. Vraiment quelques averses, rien de plus. Sinon, un temps ensoleillé, j'y arrive partout, avec un vent de secteur sud assez sensible. Malgré tout, on aura de bonnes rafales, notamment dans la moitié sud, jusqu'à 80 km/h en pointe. Quant aux températures demain matin, on aura un petit 3 degrés à Grenoble, mais 6 à Bourges, 8 à Paris et Limoges dans l'après-midi. Comptez 14 à Saint-Etienne, 15 à Carcassonne, 17 à Caen, à Ajaccio, à La Rochelle, 18 à Paris et Auxerre, 20 degrés à Mont-de-Marsan, 22 degrés à Tarbes. Dimanche, à peu près la même chose, 16 degrés de moyenne pour la moitié nord, 17 pour la moitié sud, toujours du soleil, mais toujours un petit peu plus d'instabilité entre le Finistère et le Cotentin, ainsi qu'en Languedoc. D'ailleurs, en Languedoc, sur la journée de dimanche, ça pourrait être un petit peu plus méchant avec des pluies assez soutenues et des vents assez forts.
Et puis la semaine prochaine, tout aussi belle, madame.
Alors, on laisse un petit peu de côté la journée de lundi, ce sera pour faire la route, finalement, ce sera pas mal. On va avoir pas mal de grisailles, notamment sur la moitié ouest et dans le sud. Toujours un temps ensoleillé dans le nord et dans l'est. Attention, en PACA en général, en Languedoc, en Roussillon, en Provence également, il va y avoir un temps assez féroce quand même pour la journée de lundi. De grosses pluies, de fortes rafales de vent. Les températures resteront quand même assez clémentes. Et ensuite, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il fera beau pratiquement partout. On va garder la douceur jusqu'à jeudi inclus. Les températures pourraient baisser un petit peu en toute fin de semaine.
Printemps quoi.
C'est ça.
Ouais, profitez bien. En avance. Joli programme. Météoscope avec Valérie Quintin.
Avec Stéphane Carpentier.
RTL Soir, 18h33, on va ouvrir une page culture, parler musique et festival, parce qu'il est apparu hier soir comme une petite éclaircie, presque un rayon de soleil dans le ciel chargé depuis des mois. Le ministère de la Culture donne son feu vert à la tenue des festivals l'été prochain, avec des mesures sanitaires très strictes. Le patron des Francofolies de La Rochelle s'est connecté, il est en direct avec nous. Bonsoir Gérard Pont.
Bonsoir.
Alors oui, au festival, avec tous les gestes barrières à respecter, 5000 personnes maximum pour la jauge fixée par le gouvernement, le public devra être assis. Je parlais d'une éclaircie, c'est vraiment ça Gérard Pont hein.
Mais oui, mais 5000 personnes, c'est déjà beaucoup. Hein. Vous savez que il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de jouer devant 5000 personnes. Et donc, c'est déjà une très, très belle annonce. Et effectivement, en respectant les règles sanitaires. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde est prêt à faire des efforts pour écouter de la musique en live. Donc, que ce soit les artistes, que ce soit le public, les organisateurs, on a tous envie de d'être ensemble et de communier ensemble devant une scène. Ouais, donc, et je peux vous dire que 5000 personnes, c'est déjà un très beau public.
Ouais, c'est une avancée. L'an dernier, c'était n'était rien du tout. Hein. Là, ça pourrait le faire.
Il y a deux choses. C'est que l'an dernier, nous étions vraiment, nous avons été informés très tardivement. Mm-hmm. Donc, c'est très compliqué pour nous. Là, cette année, en février, on sait malheureusement certains vont être obligés d'annuler leur festival parce que soit ils ont des artistes anglo-saxons, soit parce que ça correspond pas à leur esthétique de jouer devant un public assis. Mais voilà, au moins les choses sont claires. Je trouve que c'est bien d'avoir des décisions claires. Et surtout qu'en plus, je pense que la ministre nous a dit qu'elle allait tous les mois nous revoir et en fonction de la pandémie, eh bien on fera évoluer positivement ou pas les contraintes.
De le savoir tôt comme ça en février, c'est important pour quoi ? Pour travailler ? Pour se mettre en place ?
D'abord pour donner de l'espoir et de la bonne humeur et tout le monde est, enfin voilà, on nous appelle aujourd'hui au bureau avec des gens qui sont émus, qui sont heureux de savoir qu'ils vont pouvoir assister à des concerts, donc c'est déjà une belle touche d'espoir, donc c'est déjà ça, c'est important pour vivre l'espoir et le plaisir de se battre pour quelque chose. Ensuite oui, pour l'organisation, parce qu'on a cinq mois, c'est il peut passer beaucoup de choses en cinq mois, donc on a cinq mois pour travailler sur des pistes voilà, sanitaire, protocole sanitaire, s'organiser, travailler avec les artistes pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles conditions. Voilà, ça c'est vraiment un... 5 mois, c'est bien.
C'est bien. 5 000 fans maximum au lieu de quoi ? De 12 000 en temps normal pour la grande scène des Franco ?
Oui, exactement, exactement. Mais on peut aussi imaginer peut-être de doubler des séances, j'en sais rien. On a vraiment devant nous tout un chantier à explorer. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir, enfin, sauf évidemment 4 cas de variants mutants martiens qui pourraient nous tomber dessus. On est dans les starting blocks pour faire quelque chose de positif et d'heureux. Donc c'est 5 000 personnes, je vous dis, c'est un point de départ. Et je pense qu'avec toutes les expérimentations qui vont se faire d'ici là, au niveau des concerts, là je sais qu'il y a des expérimentations concerts debout masqués, les tests salivaires, et puis aussi peut-être la maîtrise du Covid, de la Covid, avec les gestes barrières et puis la vaccination, tout ça mis bout à bout. Je me dis qu'on a 5 mois pour retrouver peut-être la vie normale.
Il y a de l'enthousiasme chez vous et c'est très très bien, Gérard Pont, patron des Francofolies de La Rochelle. Un public assis quand même, ça c'est pas très festif si pour des concerts.
Écoutez, c'est tellement mieux que de regarder un concert tout seul dans son canapé. Franchement. C'est formidable qu'il y ait pu avoir des concerts en streaming, c'est bien, mais vous savez, depuis que le monde est monde, on a toujours voulu se réunir pour écouter des troubadours, des ménestrels ou des rockers, et donc on a toujours c'est quelque chose de bizarre, on peut pas l'expliquer, mais on a tous envie d'être devant une scène ensemble. C'est quelque chose de collectif, la musique, l'émotion. Alors évidemment, on peut aussi écouter la musique tout seul, mais en tout cas les concerts, c'est quelque chose où on a, voilà, depuis le début des temps, je vous dis, on s'est toujours réunis ensemble pour écouter de la musique.
Et puis on ne sait jamais si les choses évoluent favorablement, ce public il pourrait être au final debout, pourquoi pas, hein ?
Moi, je pense qu'il va l'être. Enfin, on va pas brûler les étapes, mais je pense qu'on va réussir à trouver des solutions step by step. Là, c'est une première étape qui est claire, qui est précise, et on va tout faire pour que ensemble, collectivement, on combatte ce virus et qu'on trouve des solutions pour vivre la fête au mieux.
Ouais, est-ce qu'on peut imaginer dans cette période de travail que vous annoncez, Gérard Pont, pour ces festivals de l'été, un espèce de passeport pour les fans, les spectateurs, du genre vous pouvez assister au concert si vous êtes négatif ou si vous êtes vacciné. Vous êtes favorable à ça?
Alors, moi, je pense que d'abord, c'est pas moi qui décide ce genre de choses. C'est on va suivre le protocole qui nous sera imposé. Mais je serais tout à fait compréhensif si c'était quelque chose qui devait être mis en place. Je pense que si vous voulez faire un safari en Afrique, vous allez accepter de faire un test de, enfin, en tout cas, un vaccin de fièvre jaune, je ne sais quoi. Voilà. Je pense qu'il faut être très prudent là-dessus parce que je pense qu'il y a, c'est quelque chose de touchy, j'ai envie de dire. Mais voilà. Je pense qu'il faut tout étudier et surtout voir qu'est-ce qui est le plus acceptable par tout le monde pour que la fête soit la plus belle.
Voilà, la fête sera belle. Vous êtes optimiste ce soir. Le patron des Vieilles Charrues était en direct ce matin sur RTL. Il était tout comme vous. Celui du Hellfest pour les métalleux, il était beaucoup plus négatif, évidemment, parce que c'est pas la même clientèle. Ce sont pas les mêmes concerts.
Il y a deux choses. C'est d'abord, je crois que la programmation est quand même très très anglo-saxonne, donc compliquée. On ne sait pas du tout si les artistes anglo-saxons vont venir en Europe cet été. Je ne sais pas. C'est pas du tout mon esthétique. Je ne peux pas en parler. Et effectivement, je pense que ce sont des, par définition, ça bouge un peu plus que voilà. Mais ceci dit. Voilà, chacun. Nous, je vous dis encore une fois, notre festival se prête bien à ces nouvelles conditions.
Avec des francophones sur scène, évidemment. Vous avez déjà une idée de qui pourrait être là ?
Ah bah oui, sauf s'il se décommande, mais j'espère que non, parce que j'espère que là aussi tous les artistes vont s'adapter à cette situation. Mais on aura justement Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Vianney, Catherine Ringer, Dadju, Matt Pokora, Grand Corps Malade, Gaël Faye. Je crois qu'il y a une centaine d'artistes, donc Isia, Claudio Capéo.
Ça fait du monde tout ça. Ça fait du beau monde en plus.
Je crois que si tout le monde y met du sien, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'en été, tout est fait pour qu'il y ait de la musique en France. Et ça, c'est quand même très sympa.
Est-ce qu'on peut imaginer que pour contourner cette jauge à 5000 spectateurs maximum, il y a plusieurs concerts dans la journée étalés?
Alors c'est la chose sur laquelle on va travailler, oui. On a commencé à réfléchir. Puis après, faut travailler avec les artistes, faut travailler avec les autorités, faut voir tout ça, comment ça peut se monter. Mais en tout cas, tout est ouvert. On connaît la base de départ. On va travailler à partir de ça. Mais il faut travailler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut travailler avec les artistes. Est-ce qu'ils sont prêts à faire deux spectacles dans la journée? Est-ce que c'est possible techniquement? Est-ce que c'est possible au terme de sécurité, de flux, de voilà. Tout ça, c'est des choses qui vont être désormais notre chantier.
Une réunion par mois avec le ministère de la Culture, c'est ça?
Oui, absolument. Et on travaille avec nos représentants, on travaille déjà de tout ça a été fait avec ensemble, et c'est un travail collectif là aussi, et je trouve ça super je vous dis ça peut paraître rien, mais je trouve que d'une certaine manière c'est assez courageux de donner déjà la possibilité, avec tous les inconnus qu'il peut y avoir. Moi, c'est bien qu'on ait ce point de départ.
Il y a un vrai besoin de revivre, en tous les cas. On échangeait avec des jeunes journalistes de la rédaction tout à l'heure sur ce retour des festivals. C'est comme si on avait un peu rallumé la lumière dans leurs yeux, figurez-vous.
Exactement. Et je peux vous dire qu'elle était très éteinte. et je vous dis, je crois vraiment que les artistes sont prêts je vous dis, s'il y a 50 personnes, ils sont prêts à venir jouer. Donc, si on leur dit qu'il y en a 5000, je peux vous dire qu'ils sont heureux.
Bon, on vous souhaite que des belles choses. Merci d'être passé par RTL Soir, Gérard Pont, patron des Francophonies beaucoup. De La Rochelle. Merci d'avoir été en direct depuis La Rochelle. Il est 18h42.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Alors après la musique et les festivals d'été, on va parler télévision, car les choses bougent encore et toujours. C'est la présidente de la Walt Disney Company France qui est dans RTL Soir, en direct, en studio. Bonsoir Hélène Hedzi.
Bonsoir Stéphane Carpentier.
J'ai bien prononcé.
C'est ça.
Merci de réserver à RTL l'annonce du lancement de Star en Europe et en France. Ce sera officiellement ce mardi prochain. C'est quoi? C'est le sixième monde de divertissement de Disney, c'est ça? Disney Plus, la plateforme?
C'est ça. Disney+, on a déjà 5 grands mondes, avec des films, avec des séries, avec des courts-métrages, avec des documentaires. Et on va rajouter un sixième monde pour aller plus loin et proposer une offre complémentaire à celle qu'on a déjà, qui est assez familiale. Disney+, on l'a lancé, vous savez, il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, en plein confinement. Et je dois dire que ça a connu un succès immédiat, en France comme dans le reste du monde. Hein, on a annoncé récemment 95 millions d'abonnés payants dans le monde. Et je crois que ça a du succès parce que justement ces 5 mondes sont très bien identifiés. C'est Disney, c'est Marvel, c'est Pixar, c'est Star Wars, c'est National Geographic aussi. Et puis, c'est un public familial qui se retrouve finalement pour s'évader un peu et découvrir ou redécouvrir des grands classiques Disney, mais aussi des nouvelles séries. Je pense à Mandalorian sur Star Wars, par exemple, et Baby Yoda, qui est maintenant très célèbre. Voilà, donc ça c'est Disney+.
Et ce qu'on Star, fait à partir de mardi,
Star, c'est le nom du sixième monde. Et c'est un monde qui va s'adresser un peu plus à l'adulte, aux jeunes adultes. Pour caricaturer, c'est un peu aux parents une fois que les enfants sont couchés. Voilà, c'est un peu le pour moi, quoi. C'est pas la consommation en famille d'un contenu, c'est pour moi. Et on va pouvoir proposer beaucoup, beaucoup de choses. des films cinéma assez mythiques, puisqu'on va avoir la saga Alien, on va avoir Titanic, on va avoir Avatar, Die Hard pour les fans d'action, mais on va avoir aussi des films un peu plus d'auteur, du Moulin Rouge, des films de Wes Anderson, comme Grand Budapest Hotel par exemple. On va avoir des séries assez mythiques, cultes, que les gens vont redécouvrir, je pense, parce qu'elles seront en intégralité, en VO, en VF. Je pense à 24 heures chrono, par exemple, Lost, toute la saga Lost, Two Grey's Anatomy, Buffy contre les vampires, enfin des choses qui parlent à beaucoup de générations. Puis les jeunes vont les découvrir, je pense. Et puis aussi des séries originales.
Alors série, film, vous n'avez pas cité Pretty Woman, c'était juste pour écouter la musique.
Vous avez
pour le
tout à fait raison.
Tout ça est destiné en particulier à des adultes parents, hein, vous nous disiez.
Oui,
hein,
c'est
ça.
C'est plutôt sur un public jeunes adultes, adultes, plutôt que le film familial par excellence qu'on a sur Disney ou sur Marvel.
Voilà, ce sont des programmes qui sont placés un peu sous surveillance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle parental, c'est ça ?
Il y a un contrôle parental qui est important parce que tous ces contenus vont se trouver sur la même plateforme. Hein. Ces six mondes vont exister sur la plateforme Disney+. Donc, on est très attentif, évidemment, à ce que les enfants, puisqu'on a une audience de famille avec des jeunes enfants aussi sur Disney+, que les enfants ne puissent pas accéder à des contenus qui ne seraient pas pour eux. Donc les parents vont pouvoir avoir des profils spécifiques pour chacun de leurs enfants, il y aura des codes donc pour qu'un enfant ne puisse pas aller sur le profil de ses parents.
Tout ça répond évidemment à une forte demande. À l'époque que nous traversons, les gens consomment beaucoup la télévision, les tablettes, plus de temps devant les écrans. C'est un peu du pain béni pour vous, ça, non?
On va pas se plaindre. Effectivement, il y a plus de temps aujourd'hui. Il y a plus de temps à passer à la maison, hein, déjà avec la pandémie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les périodes de confinement font des pics en consommation, mais qu'après, ça tient assez bien, en fait. Donc, il y a aussi un besoin de s'évader à travers des histoires et de choisir aussi ce qu'on a envie de regarder.
La création française, vous en parliez tout à l'heure, c'est aussi une priorité.
Oui, c'est une priorité. Ça va être très important pour construire le futur monde que l'on lance mardi de Star. On annonce cette semaine d'ailleurs quatre projets français, quatre projets avec des producteurs français, une comédie familiale, une famille recomposée qui s'appelle Weekend Family, une série fantasy monde parallèle qui s'appelle d'ailleurs Parallèle, une série sur Malik Oussekine qui revient donc sur ces épisodes assez dramatiques de 86, et puis une série sur Soprano, une création originale autour du chanteur soprano et de tout son parcours des quartiers nord de Marseille jusqu'à l'écriture de son dernier album, sa tournée, et derrière ça on va raconter aussi le rap français de ces dernières années. Donc beaucoup de projets français et américains pour nourrir la plateforme.
Où sont les filles, les femmes, au tempérament de guerrières, oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires, où sont les hommes ?
Il y en a pas mal des plateformes aujourd'hui, hein, qui tournent et qui marchent très très fort. Est-ce que ça fait pas beaucoup de concurrence, hein ? On pense évidemment à Salto qui marche fort, à Netflix, vous en plus. Il faut investir là-dessus ?
Nous, on est convaincus qu'on a un positionnement qui est très spécifique. Parce que, justement, on est porté par ces grandes marques. On a des grands studios derrière. C'est des marques mythiques. C'est des contenus assez mythiques. Et on va rajouter de la création originale de manière très, très, très régulière. Donc, on pense qu'on va se distinguer grâce à ça.
Je dis, vous avez beaucoup investi là-dessus. Vous n'allez pas me donner de chiffres. Mais c'est beaucoup d'argent.
Ce sont les sommes qu'il faut investir pour avoir les meilleurs contenus. Les plus beaux contenus du marché.
On parle de millions, donc. Au minimum, de centaines de millions. Le virus, vous l'avez géré comment dans votre entreprise ? Vous êtes la première femme d'ailleurs aux commandes de Disney France. Vous avez quoi, 300 collaborateurs,
ouais,
c'est ça ?
À peu près, ouais.
Ça a été difficile,
ça a été une période difficile parce qu'on avait beaucoup d'actualités, notamment avec le lancement de Disney+, et qu'on a tout fait en télétravail. Donc c'est une période un petit peu rock'n'roll. Mais bon, on s'adapte. Il faut s'adapter. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui a réussi à s'adapter, une équipe que je connais bien, et qui a fait un travail remarquable pour être un peu agile et puis s'adapter au contexte.
Ouais, il faut produire, proposer une offre, faire des économies. Quand on est patronne, il faut faire des économies aussi. C'est une équation complexe.
Il faut s'adapter. Ouais. Je dirais, pour résumer, il faut s'adapter.
Très bien. Ouais. Merci d'avoir partagé tout ça avec
merci
nous.
Merci à vous, Eleni. En tout cas.
Donc, c'est à partir de mardi, le sixième monde de divertissement de Disney Plus et Star. Mardi. Merci d'avoir réservé
merci
tout ça aux auditeurs de RTL. 18h49, vous restez bien là. C'est Eric Brunet qui va nous rejoindre pour sa semaine Les Temps Forts, sa liberté d'expression. Eric, juste après ça.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Éric Brunet nous rejoint au RTL Soir comme tous les vendredis pour une riche semaine d'actualité. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Avec d'abord une déclaration qui a beaucoup fait réagir, beaucoup parlé, c'était dimanche. La ministre en charge de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, estimant que l'islamo-gauchisme gangrène aujourd'hui l'université française.
Elle a même lancé une enquête auprès des chercheurs du CNRS pour distinguer ce qui relève de leur travail, hein, le côté recherche académique, et ce qui, en revanche, serait du militantisme et de l'opinion. Les propos de la ministre ont suscité un tollé. Mélenchon a même dit c'est du macartisme. En fait, c'est pas la première fois que le terme d'islamo-gauchisme est employé par un membre du gouvernement. Après l'assassinat de Samuel Paty, Jean-Michel Blanquer l'avait utilisé pour dénoncer le rôle de ce courant à l'université et au sein même du syndicat étudiant, l'UNEF. Le terme islamo-gauchiste avait été créé au début des années 2000 par le philosophe Pierre-André Taguieff, qui avait observé une alliance entre militants d'extrême-gauche et islamiste. Ça fait des années que des intellectuels alertent sur l'influence grandissante de l'idéologie dite décoloniale ou indigéniste, qui fait que toute critique de l'islamisme est désormais assimilée à un acte néocolonialiste. Il faut quand même dire qu'il y a une de ces vitrines de cette idéologie qui est le mouvement des indigènes de la République. À l'automne dernier d'ailleurs, sa porte-parole avait déclaré que son courant, je cite, « rayonnait dans toutes les universités françaises ». Il y a donc, Stéphane, de sérieuses raisons de s'inquiéter.
Autre sujet, autre propos, c'était mardi, la défenseure des droits, Claire Hédon, qui s'est expliquée sur sa volonté d'expérimenter des zones sans contrôle d'identité.
Ben oui, alors l'idée a été applaudie par SOS Racisme, mais elle a fait bondir en revanche tous les syndicats de police pour qui cette proposition des zones, des quartiers, des banlieues sans contrôle d'identité créait de facto des zones de non-droit. Le syndicat des commissaires de police nationale a même parlé de futures fan zones pour les délinquants. Selon le Canard enchaîné, Macron aurait déclaré « la défenseure des droits a franchi les limites de l'imbécilité ». Le problème des fameux quartiers difficiles, ces territoires perdus de la République, c'est au contraire que la police a des difficultés à y entrer. Les soustraire davantage à l'action des forces de l'ordre revient à abandonner ceux qui y vivent. Alors voilà, madame la défenseure des droits, votre mission c'est quand même de défendre tous les habitants en France, y compris ceux des quartiers. Beaucoup souhaiteraient que la police soit plus présente et beaucoup considèrent qu'un simple contrôle d'identité n'est pas une violation de leurs droits. Car les habitants de ces quartiers, madame la défenseure des droits, ont un droit très important que vous devez garantir par-delà les autres, le droit à la sécurité. C'est tout simple.
Dans l'actualité, il y a également le virus chez nous en France, Eric, car mercredi, on a recensé 25 018 nouveaux cas de Covid.
Oui, et en une semaine, le nombre de contaminations a baissé de 10%. Le taux d'incidence continue de diminuer dans tous les départements de France. Et le nombre de personnes hospitalisées et de cas graves en réanimation est en recul aussi. Alors mardi, dans son bilan hebdomadaire, et ça c'est incroyable, l'OMS a enregistré une baisse de 16% des contaminations au niveau mondial. Aucun continent n'est épargné par cette baisse. En une semaine, le nombre de nouveaux cas a chuté de 20% en Afrique et dans le Pacifique, 18% en Europe, 16% dans les Amériques. Et le cas le plus important, c'est celui des États-Unis. Près de 30% de contaminés en moins en une semaine. Et pour la première fois, le nombre de victimes est passé sous le seuil symbolique des 1000 morts par jour. C'est la cinquième semaine consécutive de baisse de la maladie à l'échelle mondiale, on ne le dit pas assez. Et le directeur général de l'OMS, qu'a-t-il dit ? Le feu n'est pas éteint, mais nous avons réduit sa
taille. Toutes ces données semblent contredire les prédictions des épidémiologistes français qui annonçaient une troisième vague. Alors voilà, Stéphane, une leçon de modestie pour tous les scientifiques français.
Et puis Eric, je voulais vous entendre ce soir sur l'écriture inclusive, car c'était mercredi, une soixantaine de députés ont transmis à l'Assemblée une proposition de loi visant à l'interdire, cette écriture inclusive, dans les documents administratifs, ainsi que pour les personnes morales chargées d'une mission de service public.
Ben oui, c'est une nouvelle façon d'écrire qui vise à supprimer les marques de sexisme dans la langue française. Jusqu'à présent, on écrivait « Louis et Louise sont beaux ». On connaît bien la règle parce que le masculin l'emporte. Eh bien maintenant, avec l'écriture inclusive, il faudrait écrire « Louis et Louise sont belles ». Voilà. Quand on s'adresse aux hommes et aux femmes, il y a d'autres trucs. Hein, dans un courrier, ça donnerait « cher.e ». .s, étudiant.e.s. Quant aux pronoms personnels, ils sont fusionnés. Pour dire par exemple « celles et ceux », il y aurait un nouveau mot, ça serait « c'est le », C-E-2-L-E-U-X. Ou pour dire « toutes et tous », on écrirait « toust », T-O-U-S-T-E-S. Bon, de nombreux linguistes se sont opposés à cette affaire. L'Académie française est folle de rage. Jean-Michel Blanquer s'est opposé fermement à son usage dans les manuels scolaires. Et Édouard Philippe avait interdit l'écriture inclusive pour les textes destinés à être publiés au journal officiel. N'empêche que les experts alertent, hein, l'écriture inclusive sera difficile à comprendre pour les personnes atteintes de dyslexie. Les aveugles, c'est très compliqué en braille, car admettons-le, hein, pour comprendre, pour déchiffrer tout cela, pour de très nombreux Français, ça va être extrêmement difficile, surtout dans les mails et dans les documents administratifs. Moi, je vous le dis, ça va m'être plus difficile même que déchiffrer du cambodgien, du flamand ou pire, du serbo-croate.
Et vous nous dites ce soir que c'est absurde, tout simplement. Merci vous, à vous, Éric Brunet. RTL Soir, le vendredi. Éric, on vous retrouve dimanche 13h, comme tous les dimanches, bien sûr, pour votre émission de débat avec de nombreux invités. C'est Où va la France ? À dimanche, Eric, 13h, 14h.
À dimanche, on parlera de Napoléon.
18h57, à 3 minutes de 19h et de toute l'actualité dans RTL Soir. On a le temps, Valérie Quintin, de répéter la bonne nouvelle. On aura un week-end tout doux.
C'est pas si souvent quand même. Ben c'est non. Vrai qu'on va avoir globalement 15 degrés de plus que ce qu'on a connu le week-end dernier. Donc c'est vrai que ça va nous changer la vie. On va avoir simplement deux petits points d'instabilité tout le week-end, hein, demain comme dimanche, sur le Finistère ou encore dans le Golfe du Lion. Et d'ailleurs, dimanche, en Languedoc, ça pourrait vraiment tomber assez dru, avec en plus de fortes rafales de vent. Faudrait être assez prudent. On pourrait avoir quelques débordements. C'est vraiment tout partout. D'ailleurs, les deux journées seront parfaitement bien ensoleillées. À peine quelques petits brouillards de rien du tout le matin. Et alors, pour nous déranger, peut-être un petit vent d'autant un peu fort en midi toulousain, notamment dans la nuit de samedi à dimanche. Et sinon, un vent de secteur sud sur tout le territoire, tout le week-end. C'est précisément ce vent qui nous apporte une grande douceur. Alors, pas demain matin, ce sera encore un petit peu frais. Mais demain après-midi, on va aller jusqu'à 23 degrés à Saint-Jean-de-Luz. Il fera 18 degrés à Paris, à Rennes, à Avignon, 16 à Lyon et Strasbourg, 14 à Dunkerque et dimanche. Donc, c'est tout pareil.
Voilà pour les bonnes nouvelles. C'est signé Valérie Quintin. Vous restez bien là. Dans un instant, c'est la suite de RTL Soir.
RTL Soir. À suivre dans RTL Soir.
Il n'y aura pas ce soir exceptionnellement d'Ondes et Fait le Monde. L'équipe se repose, reviendra la semaine prochaine. Donc on vous offre un monde tel qu'il est, avec autour de la table Elsa Grangier dans un quart d'heure, Jean-Bernard Schmitt, Isabelle Lasserre et Jean-Christophe Alquier, avec pas mal de sujets sur la table à commenter pour cette actualité, notamment les repas dans les cantines ou encore Nice sous surveillance face au Covid. Le monde tel qu'il est, c'est dans un quart d'heure en direct. En attendant, soyez tous les bienvenus, RTL Soir, 19h. RTL Soir, c'est avec Sébastien Rouxel pour le journal de ce vendredi soir. Bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Et à la une, le début des vacances ce soir pour la zone B.
On ira dès le début de ce journal sur la côte normande où les vacanciers profitent de la plage même si les températures ne sont pas au rendez-vous. Un menu unique et sans viande dans les cantines scolaires de Lyon, l'annonce de la mairie fait débat, y compris chez les parents d'élèves. Le choc et l'émotion à Pau après la mort d'un responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés tué à coups de couteau par un demandeur d'asile. Vous entendrez le directeur de ce centre. Et puis le conflit s'enlise à l'OM. Les supporters ont demandé une nouvelle fois cet après-midi la démission du président du club.
RTL Soir.
Et on commence avec une bonne bouffée d'air frais. On en oublierait presque, vu le contexte sanitaire, que l'on est en période de vacances scolaires. Et pourtant, on attend du monde demain sur les routes. Bison futé, voie orange partout en France, dans le sens des départs, en direction de la montagne, bien sûr, mais aussi vers la côte normande, comme à Saint-Valery-en-Caux, Frédéric Veil, où les vacanciers profitent de la plage.
Oui, alors on est loin des températures estivales. À 11 degrés cet après-midi sur la plage de Galais où l'on retrouve Séverine et ses enfants.
Eh bien, écoutez, oui, vacances en Normandie et on profite, malgré les masques, on essaye. Ça fait du bien de respirer l'air frais, le bord de mer, de changer d'air et puis surtout de se redonner un petit peu de morale. Hein, je crois que tout le monde en a besoin en ce moment.
Vous avez pris vos serviettes?
Non.
Effectivement, l'eau, personne ne s'y risque. Alors c'est balade, découverte des falaises et pique-nique. La patronne de la charcuterie Cavé se réjouit.
Bah nous, ça nous fait toujours plaisir quand ils viennent. Hein. Et puis, ils sont tous agréables, ils nous font travailler. Alors donc, il faut en profiter.
Autre secteur qui en profite, l'hébergement. Annie, l'office de tourisme le confirme, c'est compliqué de se loger.
C'est vrai qu'à notre grande surprise, oui, beaucoup, beaucoup d'arrivées, beaucoup de familles, des courts séjours, des longs séjours. Et beaucoup, à notre grande surprise, nous disent on a du mal à trouver un hébergement. On regarde partout sur les différents sites internet. C'est complet. Donc, on arrive quand même à héberger tout le monde jusqu'à maintenant. Hein, donc, ça pose pas de problème.
Et tant mieux, car il y a tant de belles choses à voir du côté de Saint-Valery-en-Caux.
Reportage de Frédéric Veil en Normandie pour RTL.
Les vacances, justement, elles prennent fin ce week-end pour les élèves lyonnais. Dès lundi, retour à l'école et à la cantine avec un menu unique et sans viande.
Une décision de la mairie qui n'a pas manqué de faire bondir l'opposition, mais aussi certaines fédérations de parents d'élèves. Malgré les critiques, la municipalité campe sur ses positions ce soir, Bertrand Frachon. Elle l'assure, cela va permettre de servir plus vite les élèves et donc de réduire le risque de contagion.
Selon Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation à Lyon, c'est la nécessité de proposer un menu unique pour fluidifier les passages à la cantine en période Covid qui a conduit à ce menu sans viande.
Comme notre objectif c'est de pouvoir accueillir tous les enfants et de faire déjeuner tous les enfants, on a pris le menu dénominateur commun de tous les enfants si vous voulez. Il y aura toujours des protéines animales puisqu'il y aura du poisson, des œufs.
Mais Olivier Toutain, responsable des parents d'élèves PEP, n'est pas convaincu.
Donc il n'y a eu aucune concertation avec les représentants des familles. Mais en plus, nous considérons que c'est une aberration étant donné que pour certains gamins c'est le seul repas équilibré de la journée. En plus avec ces périodes troublées sous Covid, il y a de plus en plus de familles qui ont du mal à faire des repas équilibrés.
Julie, mère d'un fils demi-pensionnaire, est plus nuancée.
Bah pourquoi pas, mais nous on mange déjà pas beaucoup de viande à la maison, donc du coup c'était assez pratique qu'il y ait de la viande à la cantine. Mais bon, pourquoi pas, effectivement enfin, ça ne me dérange pas plus que ça.
Son fils Ethan, 5 ans, n'a rien contre un menu sans viande. Est-ce que tu aimes bien manger de la viande, toi, Ethan?
Pas beaucoup.
Pourquoi?
J'aime pas beaucoup manger les animaux.
Selon la mairie, la mesure est temporaire jusqu'aux vacances de Pâques.
Bertrand Frachon, notre correspondant à Lyon. Face à l'épidémie, Emmanuel Macron se donne 8 à 10 jours pour resserrer ou relâcher les contraintes sanitaires. C'est ce qu'il a annoncé aux parlementaires de sa majorité lors d'une visioconférence, selon plusieurs participants. Le chef de l'État qui reste particulièrement attentif à l'évolution des variants, et notamment à Nice, où le taux d'incidence dépasse les 750 cas pour 100 000 habitants.
On en vient, Sébastien, aux règles de prise en charge des défunts du Covid. Elles étaient jusqu'ici très strictes par crainte de contagion.
Pas de dernier adieu possible, une mise en bière immédiate. Cela a été vécu très difficilement par de nombreuses familles. Le protocole a finalement été assoupli à Gâtelandais. Il est désormais possible de voir une dernière fois le corps d'un proche.
Oui, la famille et les proches d'une personne décédée à cause du Covid pourront désormais venir se recueillir devant le corps. Le tout en cadré tout de même par des mesures sanitaires très strictes. Il faudra rester à au moins 2 mètres de distance du défunt, ne pas le toucher ni l'embrasser et porter un matériel de protection, un masque, des lunettes, une charlotte et une surblouse pour éviter tout risque de contamination. Avec ce nouveau protocole, la mise en bière immédiate juste après le décès est donc désormais supprimée pour laisser le temps aux familles. Pas de changement en revanche pour les soins de conservation par les pompes funèbres. Eux restent interdits pour ces malades du Covid. Dernière nouveauté, en cas de doute, il sera désormais possible de pratiquer un test antigénique pour vérifier si la personne décédée était bien positive. Ces nouvelles règles ont été transmises aujourd'hui aux établissements, notamment aux EHPAD, qui se réjouissent de ces assouplissements pour leurs salariés qui attendaient cet allègement avec impatience, mais aussi évidemment pour les familles qui jusque-là vivaient parfois très difficilement cette interdiction de voir leurs proches.
Et c'est le cas de Stéphanie Bataille à la mort de son père. L'actrice actrice et comédienne, avait dénoncé ces règles. Elle avait même lancé une pétition pour que les familles puissent visiter leurs proches. Ce soir, elle se satisfait de ce décret qui arrive tout de même trop tard.
On nous a retiré des choses, donc on réhabilite quelque chose qui est indispensable. On ne peut pas ne pas avoir le droit de faire l'adieu au visage et assister à la mise en bière. C'est-à-dire que c'est impossible de faire son deuil. Mon père, quand j'ai appris qu'on ne pouvait pas le voir et qu'il serait enterré tout nu dans un body bag, c'est-à-dire un sac en plastique avec une fermeture éclair, je suis restée sidérée, en état de sidération, et j'ai appris que les familles aussi étaient sidérées. On ne pouvait pas non plus assister à l'adieu au visage. Ce décret qui est tombé cette nuit, c'est bien, mais ça aurait dû être fait déjà avant. Je ne comprends pas pourquoi on a fait souffrir des gens, des personnes, des familles entières auparavant. Il faut quand même être très vigilant, j'en appelle à la vigilance. On doit réouvrir l'hôpital, entre guillemets, comme avant. Je ressens un besoin vital que ça ne se reproduise plus.
Stéphanie Bataille, joint par Valentin Boisset pour RTL.
Je veux dire toute la solidarité du gouvernement, sont les mots ce soir de Gérald Darmanin à Pau.
Le ministre de l'Intérieur sur place après la mort d'un chef de service d'un centre d'accueil de réfugiés. Un père de famille de 46 ans tué à coups de couteau par un Soudanais de 38 ans. Sa demande d'asile venait d'être refusée. L'homme a été interpellé. Ce soir, c'est tout le centre d'accueil qui est choqué. Le directeur de la structure, Philippe Elias, fait part de son émotion et il l'assure. Toutes les règles de sécurité étaient pourtant en vigueur.
Les salariés sont formés, ils sont habitués et nous ne sommes pas sur des agressions permanentes sur le service. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des mesures ont été prises et il n'y a pas lieu aujourd'hui, en tous les cas dans l'état actuel des choses, de se dire est-ce que l'on aurait pu mieux faire. Tout était fait pour. À ce stade et en ma connaissance, personne n'a perçu à l'arrivée de la personne ce qui pouvait se produire. L'activité va se poursuivre, forcément on a des gens à accompagner, on va prendre le temps de d'abord vivre le deuil, et c'est important que les salariés puissent aussi se reconstruire et on va mettre en œuvre une organisation la semaine prochaine, mais on va d'abord vivre ce moment difficile et puis demain travailler sur la reconstruction.
Témoignage recueilli par Denis Grandjou, notre correspondant à Pau pour RTL. 9 jours après la disparition de Magali Blandin, les recherches se poursuivent près de Rennes. Une nouvelle battue était organisée cet après-midi à Montfort-sur-Meux pour tenter de retrouver cette mère de famille de 42 ans. Nicolas Bobby, l'inquiétude est de plus en plus grande sur place.
200 volontaires ont donné un coup de main aux gendarmes.
2 colonnes, s'il vous plaît, pour chaque groupe.
Le chef d'escadron, Laurent Chaparot, de la compagnie de Montfort-sur-Meux.
On apprécie particulièrement votre soutien qui va nous permettre de couvrir rapidement une surface importante pour retrouver Magali Blandin.
Accompagné de 2 militaires, chaque groupe a fouillé un bois ou un champ.
Donc en rouge, ça a déjà été fait. Ce qu'on va faire, nous, c'est cette partie jaune. C'est la zone 17.
Des proches de Magali participaient aux recherches.
On est espacés tous les 10 mètres, on est espacés, puis on avance en ligne quoi, pour la recherche. Quoi. On connaît aussi la famille, donc c'est pour ça aussi qu'on vient en soutien. Quoi.
Pour la famille, c'est dur.
Ne pas savoir, c'est la pire des choses. Quoi.
Là, il y a un petit bac à eau, par exemple, on ne sait pas. Dessous, on peut trouver un indice.
L'enquête judiciaire se poursuit. Le colonel Sébastien Jaudon, patron des gendarmes d'Ille-et-Vilaine.
Des exploitations de vidéosurveillance, des auditions qui se poursuivent, des enquêtes de voisinage. Pour l'instant, aucune piste n'est encore définitivement écartée.
Une nouvelle fois, l'hélicoptère a survolé les cours d'eau. En vain, pour le moment.
Nicolas Bobby à Montfort-sur-Meux pour RTL.
RTL Soir. Dans l'actualité, Sébastien, il y a également Intermarché qui n'entend pas se laisser faire.
Le groupe, qui compte 1800 magasins en France, va contester son assignation en justice. Le ministère de l'Économie réclame une sanction record à son encontre, 150 millions d'euros pour pratiques commerciales abusives. Ces centrales d'achat sont accusées d'avoir fait pression sur leurs fournisseurs, Christophe Pondio.
Effectivement, avec des pressions présumées sur 93 fournisseurs des mousquetaires. Selon Bercy, l'enseigne menaçait ainsi de retirer leurs produits de ses rayons s'ils ne se pliaient pas aux contrats internationaux d'Intermarché. Des menaces aussi de stopper leurs commandes alors que le distributeur représente 15% du marché. Des pratiques totalement illégales, explique Romain Roussel de la DGCCRF, la répression des fraudes.
Il y a violation des lois françaises qui prévoient qu'il y ait un équilibre des relations commerciales. Donc en clair, il était facturé des services qui étaient coûteux pour des gains potentiel en termes de chiffre d'affaires qui était minime.
Derrière ces comportements abusifs, c'est la guerre des prix qui se joue et les montants indus ne sont pas négligeables, rappelle le gendarme de la consommation.
C'est effectivement un préjudice élevé qui a conduit à demander une sanction de plus de 150 millions d'euros et la plus élevée qui ait jamais été demandée pour ce type de pratique. C'est aussi une manière de montrer que les négociations commerciales doivent être équilibrées entre les différents partenaires.
Car c'est dans 10 jours maintenant que les négociations entre la grande distribution et leurs fournisseurs sur leurs prix d'achat d'achat et de vente s'achève. Concernant l'assignation d'Intermarché, après ces 2 ans d'enquête, c'est désormais à la justice de trancher.
Les explications de Christophe Ponzio du service économique et social de RTL.
On part à Marseille où les supporters de l'OM ne décolèrent pas contre la direction.
Le conflit s'enlise depuis 3 semaines, depuis les violences à la Commanderie, le centre d'entraînement du club. Réuni pour la première fois, tous les groupes de supporters tenaient une conférence de presse commune cet après-midi au Palais du Pharo. Environ 200 supporters sur place, Hugo Hamelin, pour réclamer à nouveau la tête du président de l'OM.
Ouais, bras croisés, sourcils froncés, les leaders de groupes de supporters de l'Olympique de Marseille avaient la tête des mauvais jours cet après-midi lors de cette conférence de presse surplombant le Vieux-Port. Et Christian Cataldo, le boss des Dodgers depuis près de 30 ans dans le virage nord, n'y est pas allé par quatre chemins.
Jacques-Henri Hérault, de votre communication chaotique Marseille, hélas. Les tifos, ce sont Marseille et ses groupes. Les parkages pleins aux quatre coins de France et de l'Europe, ce sont Marseille et ses groupes. En fin de compte, vous n'avez réussi qu'une seule chose. Unifier tous les amoureux de l'OM et de Marseille contre vous. Il est temps, quitter le club.
Alors les supporters qui sont donc menacés d'être expulsés du stade Vélodrome, hein, eux qui animent les virages, je vous le disais, depuis près de 30 ans. Même son de cloche pour Rachid Zerwal, le boss des Winners. Il ne peut plus communiquer désormais avec le président de l'OM.
Nous, on n'a fait que subir depuis le début. Il nous a sanctionnés, il nous a mis des amendes.
Lui, il imagine le Vélodrome sans groupe de supporters. Est-ce que vous l'imaginez?
Mais c'est inimaginable, c'est impossible. Il est fou. Il n'y a qu'un fou qui peut imaginer ça. Il a peut-être joué dans la pièce de théâtre de Bernard Tapie, Vol de Sidonie de Coucou. Et puis je ne sais pas d'où il sort.
Des supporters touchés tout de même par les nombreux messages de soutien qu'ils ont reçus dernièrement des artistes, des associatifs marseillais et puis également des anciens joueurs, notamment Mathieu Valbuena qui pourtant n'avait pas été épargné par les supporters, des chefs de groupe qui promettent une manifestation géante sur la Canebière très prochainement s'ils ne sont pas rapidement entendus.
Merci beaucoup Hugo Hamelin, notre correspondant à Marseille. Le foot, côté terrain et le coup d'envoi ce soir de la 26e journée de Ligue 1. Brest, 12e au classement, reçoit Lyon, 3e à partir de 21h. Match à suivre dans RTL Foot dès 20h. Un nouveau titre pour Mathieu Fèvre aux Mondiaux de ski en Italie. Après sa victoire en parallèle, le Niçois de 29 ans s'est imposé lors du géant. Il est le premier Français sacré champion du monde sur cette épreuve depuis Jean-Claude Killy en 1968. Grosse déception en revanche pour le favori Alexis Pinturault. En tête à l'issue de la première manche, il est sorti sur le haut du second tracé. En rugby, un nouveau coup dur pour les Bleus après le sélectionneur Fabien Galthié. C'est le demi de mêlée Antoine Dupont qui a été testé positif au Covid. Et cela à 10 jours du match face à l'Écosse dans le tournoi Destination. Les deux hommes avaient participé lundi après-midi aux Oscars des Midi Olympiques. On les voyait bras dessus, bras dessous et sans masque.
Et puis on a appris aujourd'hui la mort du chanteur Philippe Châtel. Il était notamment l'auteur de la comédie musicale Émilie Jolie. Philippe Châtel avait 72 ans.
Tu rêves de voler la nuit, partir rejoindre le soleil et même la lune sur nos plumes.
Merci Sébastien Rouxel, RTL Soir. Vous revenez tout à l'heure à 20h pour toute l'actualité. Actualité à retrouver quand vous le souhaitez, évidemment, sur l'appli RTL. La météo pour demain, Valérie Quintin, c'est tout doux.
Oui, c'est doux partout, sur tout le territoire. Ce sera le cas aussi pour la journée de dimanche. Demain après-midi, fourchette de 13 à 23 degrés entre Brest et Saint-Jean-de-Luz. 15 degrés à Dijon, à Lille, à Valence, 16 à Bastia et Nancy, 17 à Toulouse, 18 à Paris et Poitiers, 20 degrés à Bordeaux. Un temps ensoleillé pratiquement sur tout le territoire avec deux exceptions. D'abord le Languedoc où il y aura un ciel assez chargé avec quelques averses et puis la pointe bretonne également, uniquement le Finistère, vraiment ça ne touchera même pas les Côtes d'Armor ni le Morbihan, simplement donc un ciel un petit peu plus nuageux et quelques averses sur le Finistère, pour tous les autres du soleil et un vent de secteur sud assez sensible, c'est lui précisément qui nous amène cette douceur qui sera toujours là dimanche d'ailleurs.
Ouais. Confirmation de tout ça, Valérie, à demain matin 6h58.
Oui.
Pour les matinales du week-end, ce sera un bonheur bien sûr. 19h15, pas de On défait le monde exceptionnellement ce vendredi soir, toute l'équipe est au repos, reviendra vendredi prochain, c'est promis. On va s'offrir un monde tel qu'il est avec ce soir autour de la table Elsa Grangier, Jean-Bernard Schmitt, Isabelle Lasserre et Jean-Christophe Alquier. Ils vont pénétrer dans le studio. On est tout en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.